Et c'est le journal de Florence Paracuelos. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Signaler qu'un enfant est victime d'inceste au risque de ne plus pouvoir exercer la médecine, c'est toujours le cas en 2022. Il faut que ça cesse pour aider les enfants, préconise la commission indépendante créée l'an dernier. Elle rend son pré-rapport aujourd'hui. Ce matin, on parle aussi du renseignement militaire français. Son patron, un général, est débarqué pour avoir manqué de clairvoyance sur l'invasion russe en Ukraine. L'Ukraine où les Russes proposent de nouveau de laisser les civils quitter Mariupol et où certaines villes respirent depuis quelques jours libérées de ces mêmes soldats russes. Reportage à suivre. Quand la polémique McKinsey colle à la fin de campagne d'Emmanuel Macron, opération déminage du gouvernement hier, cela suffira-t-il? On verra ce qu'en dit votre invité tout à l'heure, Nicolas.
Oui, dans le cadre de notre série des 12 grands entretiens avec les 12 candidats à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, nous recevons le candidat du Parti communiste, Fabien Roussel. Ami auditeur, vous avez très largement la parole. Appelez-nous 01 45 24 7000 ou passez par l'application de France Inter.
Un policier en garde à vue pour avoir tué un homme à Sevran le week-end dernier, soupçon de bavure. Et puis aujourd'hui, c'est aussi la fin des terrasses chauffées dans les restos et les bistrots, interdites au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. C'était le dernier tabou sur les violences sexuelles. Il a sauté l'an dernier avec la publication de la Familia Grande. L'inceste et les abus subis par les enfants. Un adulte sur 10 a été victime dans son enfance. 160 000 enfants abusés chaque année selon les estimations. Alors depuis un an, une commission indépendante a été mise en place qui rendra aujourd'hui ses premières préconisations. L'une d'elles est capitale. Elle concerne les médecins qui devraient avoir l'obligation de signaler toute suspicion de violences sexuelles. Ce serait une révolution. Puisque ce qu'ils font aujourd'hui risque les sanctions de l'ordre des médecins. Situation ubuesque, Rémi Brancato, vécue par cette pédopsychiatre que vous avez rencontrée.
La vie de Catherine Bonnet a basculé le 5 décembre 98. Ce jour-là, l'ordre des médecins prononce 3 sanctions, 3 fois 3 ans d'interdiction d'exercer la médecine. La pédopsychiatre a signalé des cas d'enfants suspectés de subir des violences sexuelles. Des parents mis en cause ont saisi l'ordre et la justice.
J'ai eu non seulement des menaces, mais on a trafiqué ma voiture à 3 reprises. J'ai été renversée dans la rue. C'est pas possible.
Après des années de procédure, les sanctions sont réduites, mais la psychiatre a dû fermer son cabinet.
J'ai perdu mon travail, me suis retrouvée à la rue. Je suis partie avec 2 valises à l'étranger, chercher du travail. Comment voulez-vous travailler en France quand vous allez avoir des poursuites et des sanctions? Mais en plus, les enfants vont avoir les conséquences de ces procédures.
Alors depuis 20 ans, Catherine Bonnet milite pour une modification de la loi pour protéger les médecins.
Soit on est dans une situation de signalement et on risque des poursuites et des sanctions, soit on ne signale pas et on peut être poursuivi pour non-assistance à enfants en danger. Finalement, ça crée un malaise énorme dans la profession médicale et la crainte de signaler.
La commission sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants préconise d'obliger les médecins à signaler et de suspendre les procédures disciplinaires à leur encontre. Pour Catherine Bonnet, cela permettrait de multiplier par 4 le repérage des victimes.
Et ce matin précisément, le docteur Izard, une autre pédopsychiatre, ira plaider son cas devant le Conseil d'État. L'ordre des médecin l'a condamné à 3 mois d'interdiction d'exercer pour avoir signalé qu'un de ses patients de 8 ans était sans doute victime de son père.
France Inter, il est 8h04, un président mal informé à qui ses propres conseillers ont peur de dire la vérité.
C'est Vladimir Poutine, décrit ces dernières heures par les services de renseignements américains et britanniques. Les mêmes avaient anticipé son invasion de l'Ukraine. Et en France, a-t-on de bons renseignements? Manifestement non. Et un homme va sauter, le général Videau, directeur du renseignement militaire. Il quitte ses fonctions avant la date prévue. C'est une information du journal L'Opinion. Franck Cognard, son analyse de la crise n'a pas donné satisfaction.
Un DRM, un directeur du renseignement militaire, ça assiste ou dirige beaucoup de briefings. Et en interne comme en externe, il était reproché au général Videau des insuffisances, des manques de précision et d'investissement. L'Ukraine l'a mise en lumière, mais ça datait d'avant, du contrat des sous-marins australiens perdu à l'automne par exemple. Or, la DRM doit être précise dans les analyses fournies. Le renseignement militaire a la haute main sur des satellites, des avions et navires espions, des soldats spécialistes de l'infiltration et du renseignement humain. Et il y a presque un mois, c'était dans une interview, c'était un tacle public, le chef d'état-major des armées avait regretté que les analyses françaises sur l'Ukraine n'aient pas eu le niveau des américaines. Le Pentagone avait prévu l'invasion au jour près. Nos services, déplorait le général Burkhardt, pensaient plutôt que la conquête aurait un coût monstrueux pour les Russes et qu'ils avaient d'autres options. Le général Videau était arrivé en juillet dernier à la DRM et ce n'était pas prévu, pas préparé. Il devait la quitter en juillet. Il a donc hier anticipé.
Là, pas besoin de renseignements. On va très vite savoir si la dernière annonce des Russes est suivie des faits. Un cessez-le-feu à Marioupol à partir de 9h ce matin pour évacuer les civils vers la ville de Zaporijja avec la Croix-Rouge internationale. Mais les combattants ukrainiens devront baisser les armes sur place. C'est la condition fixée par Moscou. Sur les autres fronts, l'accalmie annoncée par l'armée russe n'a pas eu lieu. Bombardement massif sur la ville de Tcherniv, des bombes au phosphore encore tirées dans l'Est selon les autorités ukrainiennes. Mais un début de retrait de Tchernobyl que les forces russes occupaient depuis le début de la guerre. C'est une information donnée par le Pentagone, alors que les Russes ont aussi été chassés de certaines villes. À Trostianets, dans le nord-est de l'Ukraine, ils sont partis depuis 5 jours. Reportage signé Étienne Monin et Gilles Gallinaro.
Sur la place qui fait face à la gare, Sergueï lance un regard encore incrédule sur ce qui est devenu un champ de bataille en plein centre-ville. Cet habitant a vu rentrer les Russes le premier jour de l'invasion, la fleur au fusil.
Sur leur visage, on avait l'impression qu'ils avaient déjà gagné. Beaucoup d'entre eux étaient jeunes. 18 ou 19 ans.
Les Russes se sont déployés sur plusieurs kilomètres et d'après Victor, ils ont assez rapidement puisé dans les ressources locales.
Ils ont volé des boîtes de conserve qu'ils ont jetées sur le bord de la route. C'était des séparatistes et des Russes. Ils allaient dans les maisons, ils fouillaient et ils prenaient les ordinateurs et la vodka.
Dans ce bourg qui fabrique en temps normal du chocolat et des biscuits, les habitants ici ont vécu un mois complet d'occupation avec une très forte pression, explique Oksana.
Ils sont entrés dans notre maison. Ils demandaient avec qui on vivait et pourquoi on ne quittait pas la ville.
La contre-offensive des Ukrainiens a ravagé tout un quartier. La ligne de front est maintenant à 80 km plus au nord, mais le gouverneur régional pense que les Russes se réorganisent. Trostianets, Gilles Gallinaro, Étienne Monin, France Inter.
Les Russes qui prépareraient une nouvelle offensive dans l'Est, selon le président Volodymyr Zelensky, il dit ne croire à aucune de leurs promesses.
Il est 8h08, des pizzas Buitoni et des enfants malades.
Parfois gravement, les autorités sanitaires ont fait le lien entre ces pizzas surgelées fresh-up et une épidémie d'Escherichia coli inédite. En France, 2 décès, 40 cas graves, une trentaine d'autres en cours d'investigation. Le groupe Nestlé, propriétaire de Buitoni, a fermé 2 lignes de production de son usine de Caudry dans le Nord, sans arriver pour l'instant à trouver l'origine de la contamination. Hélène Chevalier.
Habituellement, c'est plutôt dans les steaks hachés, les fromages au lait cru que la bactérie sévit. Le lait, la viande sont contaminés par les matières fécales des ruminants. Mais la pizza, c'est assez atypique, reconnaît le professeur François-Xavier Veil. Il dirige à l'Institut Pasteur le centre de référence qui séquence tous les cas d'Escherichia coli en France.
La farine est quand même une matrice alimentaire qui est plutôt hostile pour le développement de bactéries parce que c'est un produit sec. Donc on peut penser que la bactérie ne va pas se multiplier dans la farine. Par contre, les étapes suivante où il y aura de la farine qui sera mise au contact en milieu liquide. Là, à ce moment-là, il y aura effectivement une plus grande possibilité pour que la bactérie se multiplie.
Le mode de préparation de la pizza interroge par ailleurs les autorités sanitaires. Le danger vient de la consommation d'aliments crus ou peu cuits, pas après une cuisson au four à plus de 200 degrés, note Gabriel Jones, épidémiologiste à Santé publique France.
C'est une bactérie qui résiste bien au froid, mais qui est tuée par le cuisson. C'est pour ça que cette épidémie est très inhabituelle. Et nous explorons différentes hypothèses pour expliquer comment ces contaminations auraient pu survenir malgré un cuisson à minimum de ces produits.
Parmi les hypothèses, la contamination en manipulant la pizza crue avant sa mise au four, une cuisson à une température insuffisante, sur un temps beaucoup trop court ou avec un micro-ondes qui, lui, n'élimine pas forcément la bactérie.
Hélène Chevalier, 7 militants de Greenpeace arrêtés tôt ce matin. Ils s'étaient introduits sur le chantier du réacteur EPR de Flamanville pour dénoncer l'irresponsabilité des candidats pro-nucléaires à la présidentielle. Et la campagne hier a pris des allures de déminage dans le camp Macron. Éteindre la polémique McKinsey à 10 jours du premier tour, le recours à des cabinets de conseil privés dans les ministères, presque 1 milliard d'euros dépensés l'an dernier, 2 ministres envoyés au front en conférence de presse. Nous n'avons rien à cacher, aucun cabinet n'a décidé d'aucune réforme, sont venus dire en chœur Amélie de Montchalin et Olivier Dussopt. Sur le fond des propositions, parlons de la dette ce matin, sujet central des 2 dernières présidentielles. Mais assez absente cette fois, après 2 ans de quoi qu'il en coûte. La dette, c'était 112% du PIB l'an dernier. Et une seule candidate se positionne franchement, Anne Souhaitemont, c'est Valérie Pécresse.
Oui, la candidate de la droite est la seule à avoir fait du sujet un argument de campagne à chacun de ses meetings, fustigeant l'argent magique, assumant d'avoir un programme avec deux fois plus d'économies que de dépenses. Sa recette, 150 000 postes de fonctionnaires en moins. À sa droite, comme un écho à l'argent magique qu'elle dénonce, Éric Zemmour empile, lui, les propositions coûteuses à coût de milliards, mais assure pouvoir faire baisser le déficit avec la retraite à 65 ans. Pas de mesure d'austérité non plus pour Marine Le Pen, qui veut faire des économies sur les dépenses liées à l'immigration et à la contribution européenne.
Et qu'en dit le président sortant ?
Eh bien, il est loin, le Emmanuel Macron de 2017. Le candidat n'a consacré que quelques minutes à la dette quand il a présenté son programme. L'ancien inspecteur des finances promet un début de remboursement, mais seulement à partir de 2026. Deux leviers, le retour au plein emploi et la retraite à 65 ans.
Enfin, à gauche, Anne, la dette n'est pas un problème.
Eh bien, mieux placé à en croire les sondages, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon mise, lui, sur un rachat de la dette par la Banque Centrale Européenne. Quand l'écologiste Yannick Jadot assume de continuer à créer de la dette pour investir dans la transition énergétique, dans les services publics pour le communiste Fabien Roussel, Philippe Poutou propose, lui, une annulation pure et simple de la dette. C'est le candidat le plus radical sur le sujet.
La gauche, merci Anne Souhaitemont et cette annonce de Jean-Luc Mélenchon. En cas de deuxième tour, Macron-Le Pen, il consultera les 300 000 personnes qui ont parrainé sa candidature en ligne avant de donner une consigne. Enfin, quand les candidats parlent partout et tout le temps, ils ont presque tous répondu à la revue chrétienne Mission qui leur a posé cette question. Qui est Jésus pour vous? Et on retiendra la réponse de Jean Lassalle. Il considère Jésus comme son petit frère, un peu couillon comme moi, dit-il. Il parle quand il devrait se taire. Il sort d'à peu près nulle part et pour le commun des mortels, il ne va nulle part non plus. Des nuits de violence en Seine-Saint-Denis depuis ce week-end à Aulnay et Sevran, depuis qu'un policier a tiré et tué un homme au volant d'une fourgonnette signalée volée. Policier en garde à vue depuis hier soir après sa sortie de l'hôpital où il avait été admis en état de choc. Les enquêteurs, Emmanuel Leclerc, semblent avoir des éléments à charge.
Les enquêteurs de l'inspection générale de la police nationale disposent des images de la vidéoprotection municipale d'Aulnay-sous-Bois et de celles filmées par un témoin du drame. Selon nos informations, le policier n'a pas été renversé. Le conducteur n'était pas armé. Reste le contexte sur lequel l'agent va pouvoir s'expliquer. Le stress d'un contrôle routier d'une camionnette déclarée volée dans un quartier très sensible avec un chauffeur qui refuse d'obtempérer et redémarre. Une situation qui correspond à l'un des articles du Code de la sécurité intérieure revu en 2017 dans le cadre de l'ouverture du feu en état de légitime défense. Article qui stipule malgré tout, comme l'exige la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une absolue nécessité et une stricte proportionnalité. En plaçant hier en début d'après-midi le policier de la BAC d'Aulnay-sous-Bois en garde à vue pour violence volontaire, le procureur de la République à Bobigny et les enquêteurs de l'IGPN signifient qu'ils disposent donc déjà d'éléments suffisamment graves pour le soupçonner d'avoir commis une bavure.
Emmanuel Leclerc, état d'urgence sanitaire levé en Guadeloupe, couvre-feu levé en Martinique et fin du pass sanitaire. Les contraintes s'allègent dans les îles alors qu'en métropole on a comptabilisé 170 000 nouveaux cas hier et une hausse des admissions à l'hôpital.
Il est 8h14, gardez son blouson, son écharpe et son bonnet en terrasse.
Parce qu'à partir d'aujourd'hui, le chauffage aux terrasses des cafés, c'est interdit. C'est l'application de la loi pour lutter contre les émissions de CO2. Elle a été repoussée d'un an. Cette fois, on y est. Illustration à Toulouse avec Hugo Charpentier.
Il avait investi plus de 15 000 euros pour équiper sa terrasse d'un chauffage extérieur. Mais Benjamin Serra va devoir faire une croix dessus. Ce restaurateur ne cache pas sa colère.
Je prends ça pour une grosse injustice. Parce que nous, aujourd'hui, 6 mois dans l'année, on utilise ces chauffages. On fait entre 30 et 50% de notre chiffre sur ces espaces-là. Comment on répercute ça? Ben, la première des choses, c'est licenciement, régulation par la masse salariale. Ça, c'est une évidence.
Un peu plus loin, place du Capitole, Clément Murat, gérant d'une brasserie, dit comprendre l'argument écologique de cette mesure, mais regrette un manque de concertation.
Je pense qu'on aurait pu négocier quelque chose d'intermédiaire, c'est-à-dire sur la phase des repas, sur quelques heures de la journée, de rester allumé, et puis sur toutes les autres heures de la journée, éteindre nos chauffages. Or là, maintenant, on va avoir des très très grosses chutes durant l'hiver, ça c'est sûr.
Pourtant, entendre les clients, avec ou sans chauffage, ils seront bien là, en terrasse, l'hiver prochain.
On s'habitue à tout. Jadis, on fumait à l'intérieur des restaurants, donc je pense qu'on va s'adapter aussi. Remettre des pulls et des écharpes. Des plaids, mettez des plaids. Mais oui, c'est bien ça.
Voilà, des couvertures. Ou des vêtements chauds qui permettront d'économiser jusqu'à 500 000 tonnes de CO2, chaque année.
Donc rendez-vous pour un apéro dans le froid, voire sous la neige, demain en terrasse. Et si en plus il était sans alcool, sans saucisson et sans chips, on peut trouver ça triste. Mais c'est la tendance au salon du sandwich et du snack jusqu'à ce soir à Paris, porte de Versailles. Faustine Calmel a testé pour nous.
Si l'apéro de ce soir tourne au casse-tête entre la copine végane, le conjoint au régime et le beau-frère qui ne boit pas d'alcool, pas de panique, il y a des solutions.
Je vous invite à goûter ça comme du vin, déjà à essayer le nez qui est assez puissant, et après en bouche.
Cette boisson, c'est Naka, goût rose et...
Donc il y a une légère amertume qui est due au CBD. On a trouvé le juste milieu avec 30 mg pour que ça vous détende, ça vous apaise, sans que ça soit non plus un somnifère.
Pas trop sucré non plus pour ne pas couper l'appétit.
Donc ce qui est dans la barquette là,
oui,
un peu orange, en petites tranches, c'est pas du chorizo.
Ce n'est pas du chorizo en effet. C'est un chorizo 100% vegan ou un substitut de pepperoni qu'on pourra mettre sur une pizza notamment.
À accompagner éventuellement de chips.
Bio, vegan, sans gluten, mais surtout sans friture. Et fabriqué en Ardèche. Et en fait, on assemble des farines de légumes qu'on vient mettre en forme de chips, réhydratées et chauffées à l'air chaud. Donc pas de bain d'huile.
Saveur épinard, betterave, petits pois. Et pour finir, sur du sucré, voilà chichou.
Le chichou fait référence au chouchou, mais pas sur une base d'arachide, mais sur une base de pois chiches bio. Donc effectivement, c'est bon pour la santé, on se fait plaisir quand même et voilà.
Selon une étude réalisée l'an dernier, 8 Français sur 10 choisissent des produits alimentaires avant tout pour se faire plaisir. Et ça, il ne faudrait pas l'oublier.
Et si, malgré le froid et le chorizo vegan, vous avez toujours envie d'un apéro à l'ancienne, il y a Renaud et son prochain album, album de reprise des chansons de Brassens, Higelin Moustaki, Reggiani.
Si tu me payes un verre, je ne te demanderai pas où tu vas, d'où tu viens, si tu sors de cabane, si ta femme est jolie.
Voilà, si tu me payes un verre de Serge Reggiani, reprise par Renaud. C'est le premier titre de son prochain album Metech qui sortira le 6 mai prochain.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Marie-Pierre, le temps est perturbé dès ce matin.
Et oui Nicolas, avec l'arrivée par le nord de pluie, de giboulées, de grésil, de la grêle, de la pluie, neige mêlée, mais aussi du vent de nord, donc qui va souffler jusqu'à 80 km/h près de la Manche, 50 à l'intérieur des terres. Ailleurs, le temps est gris et humide avec une baisse des températures au nord de la Seine. Et on aura déjà de la pluie et neige mêlée qui vont tomber sur le Nord-Pas-de-Calais, progressant vers les plateaux Picards et au sud de la Loire, le temps est gris ce matin, humide, sauf autour de la Méditerranée, sous l'effet du Mistral et de la Tramontane, mais encore s'il pleut toujours et il va neiger sur tous les reliefs des Ardennes aux Pyrénées. Au plus bas, il fait 1 degré à Beauvais, 3 à Lille, 5 en Lozère, 7 à Paris et Brest et 11 à Perpignan.
Et attention, deux départements vigilance orange, neige, verglas.
Oui, Nicolas, pour le Nord et le Pas-de-Calais dans un premier temps, car on attend cet épisode neigeux ce soir et surtout la nuit prochaine avec 2 à 5 cm attendus, avec certainement une extension, notamment pour la Somme. Ailleurs, le temps sera de plus en plus perturbé sur les trois quarts du pays. La Grande Bleue restera ensoleillée sous l'effet du vent, mais toujours de la pluie en Corse, avec un mercure très contrasté. 6 à Rouen, 7 à Cherbourg, 8 à Paris, 13 à Lyon, 14 à Toulouse, mais 20 sur la Canebière.
Merci Marie-Pierre. France Inter, bientôt 8h19.